Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma Mwamba.
Élections en République démocratique du Congo. L'OIF recommande la mise en place effective d'une équipe conjointe d'experts internationaux en appui au processus électoral. Ceci ressort de la récente mission de l'envoyé spécial de la francophonie pour la région des Grands Lacs. Déjà 9 militaires tués en un mois dans des embuscades des miliciens au sud d'Irumu. Pour le porte-parole des FARDC en Ituri, les miliciens se cachent dans des habitations, mais les habitants ne les dénoncent pas. Et puis, le parquet près le tribunal de paix de Kananga, sans abri, logé depuis plus d'une décennie aux installations du Fonds social pour la République, le parquet est sommé de quitter le lieu. C'est le dossier à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, soutient la mise sous contrôle du processus électoral en République démocratique du Congo. Au terme d'une mission de 4 jours en RDC, le chef de la mission d'information et de contact de haut niveau de la francophonie insiste sur l'importance d'un accompagnement du processus électoral renforcé et coordonné de la communauté internationale. Selon Pascal Couchepin, envoyé spécial de la secrétaire générale de l'OIF pour la région des Grands Lacs, toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC doivent travailler pour assurer la mise en œuvre rigoureuse et exigeante du calendrier électoral publié par la CENI. Les détails avec Jeff Ngoy.
Dans un communiqué du lundi 12 novembre consacrant la fin de la mission d'information et de contact en RDC par sa délégation, l'Organisation internationale de la francophonie insiste sur le respect du calendrier électoral de la CENI. Dans cet esprit, elle recommande la mise en place effective d'une équipe conjointe d'experts internationaux en appui au processus électoral. Elle invite toutes les parties prenantes à adhérer à ce mécanisme. Cette équipe devrait permettre de faciliter la mise en œuvre et le suivi d'un chronogramme concerté et transparent dans le respect des prérogatives constitutionnelles de la CENI. Ainsi, l'OIF exhorte la CENI à élaborer dans les meilleurs délais un chronogramme et un budget détaillé de ce processus. La mission note l'impérieuse nécessité d'intensifier les efforts engagés en vue d'apaiser le contexte politique et sécuritaire congolais.
Toujours en rapport avec le dernier calendrier électoral publié par la CENI, notez cette mise en garde de la Ligue des Serviteurs, une plateforme réunissant plus d'une centaine d'associations sans but lucratif, défendant les droits et devoirs des Congolais. Dans une déclaration politique hier à Kinshasa, Nsingi Pululu, président de cette structure, recommande que ce calendrier soit le tout dernier pour amener le peuple congolais aux élections crédibles. Nsingi Pululu, dans ses propos recueillis par Désiré Kanyama.
Nous constatons que M. Corneille Nangaa souffre de l'ignorance de l'opposition politique congolaise et de la peur de la majorité présidentielle vis-à-vis du président de la République. Depuis 2014, la majorité présidentielle a toujours soutenu avec force qu'elle n'a pas un candidat président de la République à la hauteur du président Joseph Kabila. Raison pour laquelle les multiples calendriers publiés par la CENI n'ont été qu'une parodie pour accompagner la majorité présidentielle à la réforme constitutionnelle. Y égard à tout ceci, nous mettons en garde la CENI que ces calendriers publiés soient les derniers pour amener effectivement les peuples congolais aux élections crédibles.
Et à propos des appels de plusieurs organisations politiques et de la société civile à des manifestations sur l'ensemble du territoire de la RDC, à partir de demain 15 novembre, la MONUSCO exhorte les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales telles que stipulées dans la constitution du pays. Dans un communiqué publié ce mardi, la mission exhorte le gouvernement à instruire les forces de défense et de sécurité à respecter les principes de nécessité, proportionnalité et légalité conformément aux normes internationales. Par ailleurs, la mission onusienne rappelle aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes. La porte-parole de la MONUSCO précise que cet appel est une prévention. Florence Marchal au micro, au téléphone de Suzanne Zobodra.
La MONUSCO ne craint pas une recrudescence ou des violences, mais la MONUSCO souhaite faire de la prévention. Elle souhaite que l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature des accords du 31 décembre 2016 puisse perdurer et que justement cet accord et notamment les mesures de confiance puissent être mises en œuvre. Donc la MONUSCO est engagée résolument pour le dialogue et pour la résolution des différends dans le calme et de façon pacifique.
Direction l'Ituri, un soldat FARDC a été tué par des miliciens de FRPI dans la nuit de lundi à ce mardi à Singo, localité située à plus de 50 km au sud de Bunia, chefferie des Walendubindi. Selon des sources locales, ce militaire était en route pour son poste lorsqu'il est tombé dans une embuscade de l'ennemi. Le porte-parole des FARDC en Ituri parle de 9 militaires tués par les miliciens presque dans les mêmes circonstances en l'espace d'un mois au sud d'Irumu. Martial Kiza nous fait le point.
C'est vers 17h local que ce militaire des 3101e régiment basé à Marabo est tombé dans une embuscade de deux miliciens du FRPI à Singo dans les groupements Baviba. Selon des témoins, ces miliciens lui ont d'abord demandé de s'arrêter en faisant des tirs de sommation. C'est à quoi le militaire n'a pas obtempéré. Et ça ne suffit, selon les mêmes témoins, un échange de tirs entre lui et les miliciens. Quelques minutes après, il a été tué et son arme a été récupérée par ses meurtriers qui se sont ensuite retranchés dans la brousse. Information confirmée par les porte-parole des FARDC. En Ituri, le capitaine Carlos Calombo condamne ces énièmes assassinats des soldats FARDC. Selon lui, les miliciens se cachent dans des maisons de certains habitants qui ne les dénoncent pas auprès de l'armée. Pour cette dernière, il est clair que ces éléments sont la cible de miliciens. Signalons cependant que plusieurs initiatives locales sont en cours pour tenter de résoudre pacifiquement les conflits armés dans la collectivité de Walindubindi, aucune jusque-là n'a produit des résultats durables. Bunia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine à Beni, a auditionné hier le général Akili Mundos comme renseignant sur demande du ministère public. C'est dans le dossier impliquant le colonel David Lusenge, Mwami Bonguma, Mwami Sambi Libamukoka et autres. Le compte-rendu avec Sekombi Katondolo.
C'est devant un public venu nombreux à la tribune du 8 mars, devant la mairie de Beni, que la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a identifié les renseignants, à savoir le général Akili Mundose, commandant la 31e brigade basée à Mambasa, en Ituri. Il a été invité par le ministère public comme renseignant dans le dossier impliquant les trois chefs coutumiers, à savoir les Mwami Sambi Libamukoka, Bonguma Kitobi et Mwami Boroso, tous poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, crimes contre l'humanité par meurtre, violation des consignes, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Le ministère public a auditionné les renseignants. Le général Akili Mundose, alors commandant des opérations Sokola 1, est cité dans plusieurs rapports et relayé localement par la Convention pour le respect des droits humains comme instigateur de massacres commis dans le territoire de Beni. Ayant la parole, le général Akili Mundose a rejeté toutes ces allégations et nié avoir été à contact avec le massacreur de Beni. La Cour a suspendu l'audience après avoir auditionné deux autres renseignants venus voilés pour témoigner en charge contre le général dans ce même dossier. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
En réaction à la comparution du général Akili Mundos, le porte-parole des opérations Sokola 1 Nord parle d'un geste fort par rapport au respect de la population de Beni. Il ajoute que c'est la preuve que la lutte contre l'impunité est de mise au sein des FARDC. Le capitaine Makazukai au micro de c'est Kombi Katondolo.
Il l'a fait en tant que renseignant. Et c'est pour c'est par respect à la population de Beni. C'est déjà un geste fort pour dire que dans les forces armées de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'impunité. Nous ne sommes pas là pour couvrir le mal. Et comme le ministère public l'a dit, il suffit seulement qu'on change de statut du renseignant pour qu'il devienne aussi prévenu et qu'il soit jugé. Donc pour nous, c'est un message fort.
Et puis ce bilan revu à la hausse de l'accident ferroviaire survenu dimanche dernier à Bouyo-Foué dans le Lualaba. Il est passé de 33 à 39 morts et plusieurs blessés d'après le gouverneur Richard Mouyège. Quant à la cause du drame, il l'attribue à un problème de frein tout en précisant que c'est la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC qui pourrait donner la véritable cause de l'accident. Le gouverneur Richard Mouyège l'a dit au téléphone de Jean Gandou.
Il y a plusieurs morts. On en a enterré 39 aujourd'hui. parce que j'ai dépêché 3 ministres, quelques médecins. Il y a 26 qui ont été amenés à l'hôpital, 2 ont succombé de leurs blessures. Il y a 2 enfants dont les mamans n'ont pas été retrouvées. Pour les autres, on me dit que la situation semble se stabiliser. Les équipes restent sur place parce qu'on soupçonne qu'il y a encore quelques corps sous les wagons. On attend que la SNCC vienne redresser ces wagons pour voir si réellement il y a des gens. À ce moment-là, on peut établir un bilan définitif.
Mais sur place, à Louboudi, il y en a qui avancent les chiffres des 70, des sources médicales.
Non, je dois vous avouer qu'il faut retenir les chiffres que je vous communique. Celui-là qui est réel. Mais c'est jusque-là, les chiffres à retenir, c'est 39.
Et quelle serait la cause principale?
D'après ce que j'ai cru retenir, c'est un problème de freinage. Mais tu sais, ça m'étonnerait, ce sont des locomotives qui ont été acquises il n'y a pas longtemps. C'est un problème de freinage, la locomotive s'est emballée. C'est sur une pente. À cet endroit, il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Et peut-être qu'avec la SNCC, on pourra avoir la cause exacte.
Cap sur la province du Kasaï, signalant le lancement hier de la session spéciale de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP et de l'examen d'État édition 2016-2017 dans la sous-division Tchikapa 1. C'est le gouverneur Marc Manyanga qui a procédé au lancement de ces épreuves organisées dans des zones affectées par le phénomène Kamuina Sapu. Ces épreuves se déroulent hier et aujourd'hui pour les finalistes du primaire et du 20 au 23 novembre en cours pour ceux du secondaire. François Kadima nous en parle.
92 centres d'examen d'État ont été ouverts pour 16 500 élèves finalistes du primaire, a indiqué la directrice provinciale de l'EPSP au Kasaï, Wivin Mudekoko. Pour les secondaires, rapporte la même source, 12 centres sont opérationnels pour 3 600 candidats à l'examen d'État. Déplorant les difficultés rencontrées dans l'organisation matérielle de ces épreuves, Wivin Mudekoko appelle à l'implication de toutes les couches du Kasaï pour leur réussite. Lors du lancement de cette session spéciale, le gouverneur du Kasaï a décidé de payer les frais de participation de tous les finalistes du primaire. Un geste qui, selon Marc Manyanga, permet de soulager la souffrance des parents de sa province pendant les événements liés au phénomène Kamuina Sapu. Les zones concernées par ces épreuves sont entre autres Kamunya, Lunyeka, Kamusha, Kalunda et Luebo. La MONUSCO appuie l'organisation de ces examens et a assuré le transport des copies des épreuves à Tchikapa. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
23e conférence sur le climat COP23 à Bonn en Allemagne. Les délégués des 196 partis engagés à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique poursuivent leurs négociations entamées depuis le 6 novembre dernier. D'après les experts et négociateurs de la RDC, cette semaine est décisive. Les chefs des différentes délégations sont arrivés pour valider le travail abattu par les experts. Le point avec notre envoyé spécial, Nounou Ngoïsanza.
Les négociations sur le climat se poursuivent ici à Bonn. D'après les chefs de délégation, la semaine qui commence n'est pas celle des discours. Tous les délégués doivent retourner dans leur pays avec une feuille de route claire par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris l'année prochaine. Les experts de la RDC soulignent que la réponse sur les financements n'a toujours pas trouvé de réponse claire. Cela surtout, entre autres, à cause de l'annonce du retrait des États-Unis des accords de Paris. Ce pays est connu comme un grand pollueur et en même temps un grand bailleur de fonds par rapport aux engagements pris lors de la COP21 à Paris. Autre chose, la RDC sait qu'elle va bénéficier des fonds pour les mesures d'adaptation, mais quel sera le montant global de son enveloppe pour les 3 principaux axes retenus, à savoir l'agriculture, les énergies renouvelables et le secteur des forêts? Ces questions trouveront sans doute de réponse ce mercredi à la réunion de haut niveau qui se tiendra à Boulazone. Pour rappel, la COP23 est organisée par les îles Fidji, un état insulaire qui fait face aux effets néfastes du changement climatique. Depuis Bonn, Nounungo Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Commençons en Iran, où le bilan du séisme s'alourdit. Selon le dernier bilan officiel, 407 personnes ont été tuées et plus de 7000 autres blessées dans le séisme de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran. Les opérations de secours et de sauvetage ont pris fin car selon les autorités, il ne devrait plus y avoir de survivants ou des corps sous les décombres. C'est le jour des deuils en Iran et les écoles restent fermées ce mardi. Le président américain Donald Trump a quitté ce mardi Mani après un voyage de 12 jours en Asie, son premier depuis son arrivée au pouvoir, qui fut selon lui très réussi. L'avion présidentiel Air Force One a quitté l'aéroport international Ninoy Aquino en milieu d'après-midi à l'issue de ce long périple qui l'aura mené dans 5 pays, Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam, Philippines. « Je me suis fait beaucoup d'amis au plus haut niveau », a-t-il déclaré aux journalistes peu avant son départ. « Nous avons avons tous travaillé dur et je crois que les fruits de notre travail vont être incroyables, a-t-il ajouté. Terminons au Congo-Brazzaville. Le pouvoir a envoyé un autre signal fort de dégel en libérant, il y a quelques jours, certains proches de l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias le pasteur Ntoumi, qui était resté sous les verrous sans jugement. Cela après avoir annoncé l'ouverture de ses couloirs, des couloirs humanitaires en vue de faciliter la sortie des ex-combattants ninja du Pool, où ils combattent l'armée depuis avril 2016. Aucun élément n'a été fourni sur le nombre exact de proches du pasteur Ntoumi concerné par cette libération. Notez que ces attaques attribuées au pasteur Ntoumi et à ses ex-combattants ninja sont à l'origine de la reprise des violences dans le département du Pool, avec les conséquences que l'on sait.